aussi les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30, mais exceptionnellement aujourd'hui de 12h30 jusqu'à 14h. Et dans cette émission, nous vous diffuserons un second montage réalisé sur la base des enregistrements effectués lors de la mobilisation du 12 au 15 juin dernier, mobilisation contre le salon Euro Satori à l'initiative de la coalition Guerre à la guerre. Vous pourrez donc entendre une partie des prises de parole réalisées lors de la déambulation du samedi, un montage de la première table ronde qui avait lieu ce samedi 13 juin, mais aussi des interviews réalisées lors de la journée et un reportage effectué lors de l'action du lundi matin. On vous laisse donc écouter tout ça.
Nous sommes la Pride radicale de Paris. Depuis 2021, nous rassemblons plusieurs dizaines de milliers de personnes lors de marches des fiertés anticapitalistes, antifascistes et anti-impérialistes dans une initiative portée par des personnes queer, noires et racisées, musulmanes, migrantes et handies. Nous appelons nos adelphes et nos alliés à nous rejoindre demain, place de la République, sous le mot d'ordre anti-guerre et contre les génocides, pour la dignité de tous les migrantes et une décolonisation globale. Pour une marche des fiertés qui ne se laissera pas instrumentaliser par les colonialistes, les impérialistes et les fascistes. Nous avons choisi ce mot d'ordre car nous savons que le processus de décolonisation est loin d'avoir abouti et régresse dans un système qui renforce les centres et exploite, violente et tue les personnes, groupes et peuples qu'il relègue à la marge. Nous constatons une marche effrénée vers la guerre en France avec une explosion des budgets dédiés à l'armée au détriment des services publics. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit un budget de 413 milliards d'euros. Cette militarisation augmentée annonce quelque chose. La France se prépare à une guerre de grande ampleur. Nous le disons très clairement. Nous refusons de participer de quelque façon que ce soit à des agressions impérialistes qui, sous couvert d'idéologie progressiste ou de protection du territoire national, cachent en réalité les vieilles ambitions coloniales de prédation des ressources.
Les conflits, génocides et crimes contre l'humanité actuels sont motivés par la volonté d'extraction des ressources et d'expansion des puissances impérialistes. Les minerais de la République démocratique du Congo, les hydrocarbures vénézuéliens, le pétrole iranien et l'or soudanais sont au centre des bombardements, actions militaires et génocides en cours. Le Nord global, à savoir les États européens et nord-américains, qui se pensent être le centre du monde, ne sont cependant pas les seules forces impérialistes auxquelles nous devons résister. La Chine, les Émirats arabes unis et la Russie en sont d'autres exemples. Cuba est asphyxiée par l'embargo militaire des États-Unis, avec des morts massives dans les hôpitaux et une famine complètement passée sous silence par les médias conventionnels. Israël continue le génocide et bombarde Gaza, l'Iran agresse le Liban et continue sa colonisation en Cisjordanie. Ces logiques d'exploitation sont révélatrices d'une conception ségrégationniste du monde qui se retrouve aussi aux échelles régionales, nationales et européennes. Le colonialisme se manifeste structurellement sur les territoires dits d'outre-mer. La vie chère constitue entre autres une injustice ancrée historiquement car son modèle économique a été organisé sous la colonisation officielle. La ségrégation raciale imposée aux communautés roms, complètement banalisée par les politiciens et les médias. Le projet de Retailleau qui souhaite renforcer la ghettoisation des classes populaires en mettant les quartiers populaires sous blocus H24 avec des checkpoints tenus par l'armée. Le règlement retour récemment adopté par le Parlement européen qui accentue les logiques racistes, ségrégatives et fascistes d'une Europe forteresse. Dans une gestion capitaliste des flux migratoires, l'Europe délocalise et assume de déporter des humains en masse. Enfermer et expulser des personnes selon leurs origines ou nationalités, c'est ça le vrai séparatisme.
Le mouvement queer doit à tout prix combattre la politique d'une Europe des frontières, spécifiquement dans un contexte où les lois LGBTphobes se durcissent dans le monde, notamment dans plusieurs pays africains tels que le Burkina Faso, le Sénégal ou encore le Ghana. Plus largement, nous devons combattre le fascisme urgemment. Les violences dans la rue, au travail et dans l'intime sont décuplées car encouragées par des politiques conservatrices et racistes. Ces attaques sont de plus en plus fréquentes. Guet-apens homophobes, ratonnades anti-migrantes, attentats racistes et islamophobes, tabassages LGBT-phobes, assassinats xénophobes, transphobes et putophobes s'ajoutent aux violences policières et administratives. Nous ne pardonnons pas à la gauche institutionnelle et au mouvement LGBT mainstream d'avoir fermé les yeux face à la loi contre les séparatismes qui contraint nos collectifs queer racisés à œuvrer dans la discrétion et le manque de moyens. Désormais, nos lieux de vie et de rencontres communautaires sont attaqués et ferment les uns après les autres sans qu'un mouvement préparé au fascisme n'ait pris forme.
C'est dans ce contexte que nous devons faire front et continuer de lutter pour une riposte queer et décoloniale. Il est urgent de ne pas dissocier ces luttes, car nos adelphes queer se trouvent partout sur la planète et souffrent autant des conséquences que nous dénonçons plus haut. Nous appelons à une riposte queer, féministe, anticapitaliste, antivalidiste et décoloniale. Nous nous voulons porteuses d'espoir et de révolte, que cette marche soit une étape dans la construction d'un mouvement solide et structuré contre l'impérialisme et pour une révolution au nom d'un monde plus juste.
Salut à tous, ici l'Observatoire Terre-Monde. Alors nous, à la base, on est une association qui s'est formée il y a 6 ans sur des sujets d'écologie décoloniale dans les territoires d'outre-mer français. Plus généralement, on s'attaque en fait aux problématiques coloniales liées aux territoires d'outre-mer et au sud global. Et je viens vous parler ici et vous alerter sur le fait que toute l'accélération au niveau de la militarisation et tout le discours impérialiste français, il va aussi et toujours s'appuyer sur des intensifications dans les territoires dits d'outre-mer, notamment en termes de recrutement, au niveau de la sécurisation des bases militaires, au niveau des replis colonialistes sur certains territoires, notamment la Kanaky. Et c'est pas un hasard si les accords de Matignon ont été méthodiquement démantelés ces dernières années et où la France revendique encore plus un discours notamment sur l'Indo-Pacifique et sur sa présence dans tous les océans pour protéger l'intérêt national et sa population. Donc les territoires des Outre-mer sont notamment des victimes en fait de ces discours-là. Et il faut bien noter que historiquement, la France, elle a en grande partie construit sa puissance, notamment grâce à des expérimentations en fait, dans les territoires des Outre-mer. C'est le cas, par exemple, des essais nucléaires qui, au départ, avaient eu cours au Sahara algérien. Et dès lors qu'en fait, l'Algérie a accédé à l'indépendance, ce sont des essais qui se sont déportés en fait, au large des territoires polynésiens et qui a engendré donc, de 1975 à 1996 des dégâts immenses, donc à la fois via des radiations qui ont affecté la santé humaine, mais qui ont aussi détruit durablement et endommagé en fait la biodiversité dans ces territoires. Et il faut vraiment savoir que, par exemple, pour nos camarades polynésiens, c'est d'une violence inouïe parce qu'ils ne font pas de séparation en fait entre eux et leur habitation terrestre. Et la continuité en fait maritime de leur habitation, la mer fait partie de leur habitat, fait partie de leur âme. Et en fait, quand ils observent la destruction de l'habitat naturel des êtres vivants avec qui elles cohabitent, c'est aussi en fait des séquelles énormes du colonialisme qui sont combattus là-bas. Donc il y a vraiment en fait des expérimentations dans les territoires dits d'outre-mer qui reposent sur la déshumanisation de ces populations-là au prix d'enjeux géostratégiques qui va renforcer la prédation coloniale. Et il y a des outils, par exemple, qui sont développés par l'État français, notamment en termes de recrutement et de militarisation des populations dites ultramarines. Par exemple, le RSMA, donc c'est le Régiment du Service Militaire Adapté. Et en fait, pour vous en dire quelques mots, donc ça a été créé en 1961 donc par Michel Debré, qui par ailleurs est bien connu notamment à La Réunion, mais dans plusieurs territoires d'outre-mer pour justement des politiques en fait coloniales qui viennent verrouiller les départements ultramarins, les empêcher en fait d'accéder à l'indépendance, réprimer certaines dissidences. Et en fait, le RSMA, ça va se présenter de manière assez noble comme un outil en fait de recrutement qui va venir insérer des jeunes marginalisés en fait dans la société, parce qu'il faut savoir que notamment aux Antilles en fait où j'ai grandi, il y a un chômage des jeunes qui est absolument massif. Il y a des perspectives, il y a un marché de l'emploi qui est très contracté, il y a une vie chère qui est extrêmement importante, et ça fait qu'en fait on a une population jeune qui est très précarisée, qui est soumise à beaucoup de tentations, notamment en termes de délinquance, en termes de consommation de drogue, etc. Et du coup le RSMA, ça vient comme l'outil en fait du colon pour sauver ces jeunes là pour les réintroduire en fait dans la société. C'est un petit peu quelque part le dernier rempart contre la marginalisation en fait qu'ont ces jeunes. Et cet outil qui est développé aux Antilles, mais aussi en Polynésie, à Mayotte, à La Réunion, donc ça va recruter des milliers de jeunes chaque année pour les réinsérer dans le marché de l'emploi. Et du coup, ça représente une réponse vraiment disciplinaire à une crise sociale et économique qui est entretenue en fait vis-à-vis des jeunes. Et ça vient à la fois agir comme un outil de militarisation, mais aussi quelque part un outil de civilisation aussi pour ces jeunes-là, parce que c'est vraiment pensé comme ça. C'est à la fois un dispositif d'insertion sociale, mais aussi pour apprendre le savoir-être en fait à ces jeunes, le savoir-vivre. Et il y a notamment la caste Béquet aux Antilles qui se porte partenaire de ce type de projet, qui, une fois que les jeunes sont intégrés au RSMA, qui viennent ensuite donc les projeter dans des secteurs qui sont contrôlés par les Béquets. Donc les Béquets, pour les personnes qui ne savent pas, ce sont les descendants et descendantes directes en fait des esclavagistes aux Antilles, absolument directes, hein. Donc en fait, ils se reproduisent entre eux depuis 300 ans. Ils possèdent encore un oligopole économique en Outre-mer. Ils sont en grande partie basés en Martinique, où ils possèdent pas moins d'environ 52% des terres, dont environ 90% des terrains plats, donc cultivables et constructibles. Donc vous comprenez bien qu'en fait, c'est une caste de suprématie blanche qui a encore la mainmise majoritaire sur l'économie en Outre-mer. Et en fait, ils viennent profiter de ces dispositifs de militarisation pour pouvoir intégrer des jeunes disciplinés par l'État colonial dans leur secteur pour permettre aussi en fait la persistance de leur propre système. Donc je vous dis tout ça pour vraiment vous alerter et vous dire, bah, quand on parle de l'impérialisme français, on parle aussi des conséquences que ça a en fait sur les territoires du ultramarin par le repli colonialiste et par la militarisation qui se fait dans ces territoires-là, et pour aussi interpeller les forces de gauche qui parfois ont des discours en fait ambigu sur la grandeur de la France à ce sujet, qui continue en fait à vouloir sauvegarder à bout de bras cette ZEE qui nous place au deuxième rang mondial, qui continue en fait à fantasmer l'idée que les Outre-mer sont une richesse pour la France, mais à quel prix ? Voilà, n'hésitez pas en fait à lutter aussi contre ces dynamiques qui sont vraiment internes à notre pays.
C'est Loïc, en tant que porte-parole de Guerre à la Guerre, on a aussi choisi de s'arrêter ici aujourd'hui parce que le nouveau centre de police municipale est aussi un centre de sécurité ou de surveillance urbaine, le CSU, qui a été équipé par une entreprise bien française de haute technologie qui s'appelle Thales. Et donc nous, pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, en janvier, on a lancé une campagne contre Thales. Ce Thales elle se présente comme de haute technologie, c'est surtout une boîte de répression intérieure et de guerre. Thales fabrique des canons, des mitraillettes, des fusils, etc., des bombes. Et il fabrique aussi de la vidéosurveillance, des smart cities et compagnie.
Donc vraiment, Thales, c'est une entreprise très concrète qui a 62 sites en France, qui fabrique les outils qui nous répriment ensuite dans les cités, dans les quartiers populaires, au travail, dans les manifs. Et cette campagne porte ses fruits, puisque pas plus tard que hier, le journal Les Échos s'inquiétait au moins du risque réputationnel, parce qu'on a allumé et affiché Thales pour dire effectivement Thales est complice du peuple, enfin, du génocide du peuple palestinien, Thales est complice de la répression à Saint-Denis. Donc, on l'a dit tout à l'heure, de Saint-Denis à Gaza, c'est le même Thales qui arme et le génocide et la répression. Et ce matin, cette nuit, il y a des militants en Haute-Savoie qui sont allés effectivement stiquer, peinturlurer le site de Nicomatic, qui est un sous-traitant de Thales. Ils ont été accueillis par 12 quarts de CRS. Ils ont été braqués avec des armes, mis au sol comme si c'était des gangsters, effectivement menottés et envoyés en garde à vue, donc violentés. Donc là, il y a une campagne, faire sortir nos camarades qui sont dans les commissariats de Haute-Savoie, dans le cadre du G7. Donc voilà, c'est la répression pour tous et toutes. Et cette répression, elle se fait avec des armes, avec de la technologie. Donc effectivement, on est aussi là pour dire qu'on fait la guerre à la guerre, on fait la guerre à Thales. Donc je vous dis juste ça, et après on avance, quoi. Guerre à la guerre et guerre à Thales. Guerre à la guerre et guerre à Thales. Guerre à la guerre et guerre à Thales. Guerre à la guerre et guerre à Thales.
Merci d'être là en ce samedi matin, de vous être levé pour vous mobiliser tout le week-end contre Eurosatory, contre le salon de l'armement. On va commencer avec une première table ronde. Dans cette table ronde, on va réfléchir un peu à la façon dont la militarisation et la fascisation s'accélèrent et se met en place de plus en plus dans toutes les strates de la société. Face à cette militarisation qui se voit à travers aussi bien l'intrusion de l'armée dans les collèges et les lycées, la police dans les écoles, les discours natalistes sur un pseudo réarmement démographique, le nouveau service national volontaire, etc. Il existe des résistances syndicales, féministes, antiracistes, enfantistes, étudiantes et populaires. Et c'est de ça qui va être question aujourd'hui avec nos intervenants, intervenantes. Et je vais commencer avec toi, Pascal. Tu travailles donc dans une entreprise d'armement. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle forme prennent l'accélération militariste sur ton lieu de travail ? Comment tu le vois ? Comment ça se ressent chez les collègues ? Et quel est le rôle que peut avoir un syndicat face à ces questions de guerre ? Je te passe le micro.
Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous. Donc voilà, Pascal, je vais dire la société. Je travaille chez Airbus en région parisienne, donc une entreprise qui fait beaucoup d'avions, mais qui fait beaucoup de défense aussi, puisque c'est l'une des plus grosses entreprises françaises, européennes même, de défense, ou du monde aussi. Donc voilà, mais je veux aussi parler pour l'ensemble des entreprises d'armement, parce qu'elles fonctionnent tous à peu près de façon similaire, et leurs méthodes sont exactement les mêmes. Donc la première des choses, je pense qu'il faut considérer l'entreprise, mais bon, je pense qu'on est tous au clair dessus, c'est que son but principal, c'est de développer le capital et de le protéger, donc de faire du fric, du fric, du fric. Donc tout ce qui va pouvoir lui amener du fric, elle va saisir les opportunités. Et évidemment, en Europe, il y a un plan qui s'appelle Rearm Europe. C'est un plan de 800 milliards d'euros qui est en train de se déployer. Donc c'est énormément d'argent que l'entreprise veut capter. Et pour Airbus, pour toutes les entreprises, c'est une opportunité. Et donc il faut la saisir au vol. Et donc ils vont utiliser plein de mécanismes pour que les salariés, évidemment, marchent derrière cet objectif. Donc elle va développer des idées très patriotiques dans un premier temps, le nationalisme, etc. Et surtout, elle va essayer de capter les marchés européens, nationaux, parce que voilà, il faut récupérer cet argent. Donc elle va utiliser notamment proposer de plus en plus de conférences aux salariés, mais aussi et en faisant des vidéos promotionnelles de ses produits. Vous imaginez même pas à quel point c'est ridicule. C'est-à-dire que c'est une vidéo avec beaucoup de théâtre militaire, avec des images de guerre, des images d'avions, de drones, etc. Et avec souvent l'hymne européen, c'est au service de l'Europe, quoi. Il faut se défendre. Donc voilà. Voilà, le changement, tu en parlais, mais le changement actuel, c'est vraiment ça. C'est faire marcher les salariés, éviter qu'ils se réunissent pour et qu'ils aient des idées internationalistes et tout ça. Donc, sur le syndicat, alors je pense que le syndicat, il ne faut pas passer beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie à convaincre le patron. On n'y arrivera jamais. Lui, il a des actionnaires, il sait très bien où il va. Nous, ce qu'il faut, c'est passer du temps avec les salariés, les convaincre de pourquoi on est là, de décrypter un peu les stratégies patronales, de leur montrer pourquoi elle fait ça. Est-ce que c'est vraiment pour l'Europe ou est-ce que finalement elle en a rien à foutre de l'Europe ou de la France? Et finalement, c'est le but, c'est juste de s'enrichir. Franchement, elle veut capter les marchés européens, mais elle veut aussi capter les marchés américains, asiatiques, africains. Tout ce qu'elle peut, elle va le faire. Donc tout ça, c'est de la propagande qu'il faut pas tomber. Et en fait, donc nous ne passons pas de temps dessus et passons du temps avec les salariés en créant du lien au maximum. Ça va permettre de combattre en fait cette division que l'employeur met en place. Par exemple, dernièrement à Airbus, ils sont en train de diminuer l'accès au télétravail. Ils vont augmenter le temps de travail. Ils vont mettre en place de l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité, enfin la rentabilité, etc. Ils vont mettre en place des nouvelles chaînes, sans employés, sans mettre de l'emploi. Donc c'est vraiment une mise au pas des salariés. Et donc ça aussi, c'est combattre le capitalisme. Je pense que c'est la première chose à faire, c'est d'aller dans ces luttes et de créer du collectif pour combattre tous ces petits éléments qui nous amènent à produire plus. Et de toute façon, on va produire pour la guerre. Et donc c'est pas possible. Après, je peux faire une cartographie des salariés. La majorité des salariés, ils ont peur de perdre leur travail. Donc, politiser leur travail, ce qu'ils font, que ce soit des armes qu'ils vont vendre à Israël, ou etc., c'est trop difficile parce qu'ils ont peur de perdre l'emploi. C'est un peu, souvent, ils nous disent, bah ouais, mais moi, il n'y a que ça que je sais faire, en fait. Donc, en fait, ils ne vont pas aller dans ce sens-là. Ils vont se dire, bah, de toute façon, il faut que l'entreprise fasse du fric. Comme ça, moi, je vais garder mon emploi. Et pourtant, l'entreprise Airbus fait 5 milliards d'euros de bénéfices. Ça ne les empêche pas de faire des plans de licenciement. Donc, pourtant, c'est facile à démonter. Mais bon, ils ont toujours cette peur-là. Il y a les salariés, évidemment, qui sont patriotes. Il y a des petits drapeaux français qui fleurissent un peu plus, de plus en plus souvent dans les open space, dans les ateliers. Évidemment, il y a les salariés. Moi, j'ai des salariés, alors je ne vais pas donner leur nationalité, mais qui sont de nationalité dans deux pays qui sont réprimés, qui subissent des génocides. Et dont Airbus a des projets pour leurs agresseurs. Enfin, ça peut être l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Israël, enfin, peu importe. Et donc, eux, ils se retrouvent à travailler sur des projets de leurs ennemis, enfin, ennemis entre guillemets. Et c'est très difficile pour eux. Ils ne savent pas comment se positionner. Est-ce qu'il faut partir d'Airbus parce que c'est trop dur, ou est-ce qu'il faut s'engager dans la lutte au sein d'Airbus? Donc voilà, c'est toutes ces questions qui se posent. Il y a aussi, l'armée est présente dans toutes les entreprises d'armement, au sein de l'entreprise. Ils font des expositions de leurs produits, ce qu'ils attendent, ce qu'a fait Airbus, ce qui est super, etc. Il y a aussi des salariés réservistes. Ça, c'est très, très important. Il y en a beaucoup. Ils ont Airbus leur accorde 2 semaines, je crois. Enfin, les entreprises d'armement accordent du temps pour qu'ils passent du temps dans les exercices militaires, à côtoyer les différentes armées du monde. Et évidemment, ils propagent cette idée qui est propagée dans l'armée que l'armée française, ça serait une armée un peu pour la démocratie. Enfin, c'est très colonial. Hein. Donc voilà. Et c'est inconscient. C'est pas parce que ce sont des gens qui sont plutôt sympas d'ailleurs. Mais malheureusement, ils diffusent une armée qui est humaniste, en fait. Voilà. Je vais m'arrêter là.
Merci, la fameuse armée humaniste qu'on connaît bien. Merci, Pascal. Une deuxième petite question pour être dans un optimisme quand même raisonnable. On a vu partout dans le monde des travailleurs, travailleuses s'organiser contre la guerre. On a vu des initiatives incroyables, les dockers de Gênes qui refusent de changer les armes. À France, on a vu les dockers CGT à Fos-sur-Mer qui bloque des conteneurs de composants militaires qui allaient partir pour Israël, c'est en 2025. Donc selon toi, qu'est-ce que ces mobilisations disent de la place centrale des travailleurs et des travailleuses dans les chaînes de guerre, des perspectives d'organisation collective, et comment est-ce qu'on peut un peu s'inspirer de cette dynamique qui est mondiale, quoi.
Déjà, félicitations aux dockers du monde, hein, parce que moi, il y a les Européens, Gênes, tu as parlé, mais j'en avais vu dans l'Ouest, aux États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit déjà que les travailleurs produisent tout dans la société. que c'est eux qui font les armes, qui font les voitures, qui vont faire les drones. Drone de Renault, hein, Renault qui va diversifier sa production pour de l'armement, parce que, comme on disait, ça rapporte. Et donc, on a un vrai pouvoir de blocage. Alors, évidemment, la logistique, c'est le rapport de force suprême, je pense, actuellement. En tout cas, toutes les chaînes logistiques, hein, que ce soit chez Amazon ou quoi que ce soit, on a moyen de leur faire très, très mal en bloquant ces chaînes-là. Donc, ça, c'est sûr. Bon. Mais il y a tous les autres secteurs. Le secteur de l'armement, c'est évidemment, on est au cœur de la production des armes, donc évidemment qu'on pourrait bloquer. Mais alors, c'est évidemment pas facile. Hein. Il y a beaucoup de répression, peur de perdre son emploi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les autres travailleurs. Moi, je vois les travailleurs du textile qui peuvent faire produire pour faire des habits militaires ou je sais pas, l'hôpital, l'éducation. Mais l'éducation, c'est produire les futurs la chair à canon ou la chair à patron. Donc je pense que voilà ce que ça nous dit, c'est qu'on produit tout, c'est à nous d'agir et de bloquer leur production, et je pense qu'on y a. Mais c'est une conscience à avoir. Je pense que pour combattre la militarisation et la fascisation, je pense qu'il faut se cultiver, lire, refaire des rencontres, et puis toujours monter en compétence et créer du lien. Et en créant du lien, quel qu'il soit, on va pouvoir diffuser des idées d'internationalisme, de solidarité, et également, surtout même, la conscience de classe et la conscience de ce qu'on vient de dire.
Bonjour camarades, et merci à toutes et à tous d'être là. Moi, je m'appelle Guilhem, je suis un militant trans et anti-impérialiste. Je suis membre de l'ILPS, qui est la Ligue internationale des luttes des peuples, et aussi de l'OST, qui est l'Organisation de solidarité trans. Nous sommes réunis aujourd'hui pour protester ensemble contre la complicité de notre gouvernement dans les massacres de nombreux peuples des pays qui sont dits du sud global, sur lesquels les puissances impérialistes exercent un étouffement, un pillage, une domination. On est réunis ici pour dénoncer ensemble le génocide du peuple palestinien, qui subit une colonisation de peuplement depuis plus de 80 ans, et dont le massacre est entre autres perpétué par la vente d'armes françaises à l'entité sioniste. Mais nous savons que si la France a les mains qui sont couvertes de sang, c'est du sang de nombreux autres peuples. Nos frères et nos sœurs des colonies dites d'outre-mer peuvent en témoigner, à La Réunion, en Kanaky, aux Comores, pour en citer quelques-unes. Nous le voyons ainsi dans l'implication de la France dans la militarisation des Philippines, qu'il s'agisse de sa participation aux exercices Balikatan en mer de Chine nationale depuis déjà 4 ans, ou de son récent accord de force de visite signé en octobre. Ça autorise les troupes françaises à stationner et à occuper les bases militaires philippines, à y stationner aussi longtemps que voulu, et à bénéficier évidemment d'une impunité pour les crimes qui sont commis dans l'archipel. Parmi tant d'autres avantages, dont les forces états-uniennes sur place bénéficient déjà depuis des années, le traité de vente de l'archipel des colons espagnols aux occupants états-uniens a été signé à Paris. La France n'a peut-être pas colonisé les Philippines, mais la France a toujours été complice de sa colonisation et de son exploitation. Aujourd'hui encore, l'économie française a des intérêts immenses à son implantation aux Philippines. Les entreprises comme Total, bien sûr, mais le réseau de transport de Manille, c'est la RATP. Il y a une exploitation sans précédent, des bombardements, des fusillades, des enlèvements, des assassinats et d'autres violences fascistes qui sont silenciées et se déroulent toujours dans l'indifférence de nos médias et souvent de nos cercles anti-impérialistes ici. Les exemples ne s'arrêtent bien sûr pas là quand il s'agit de mettre en lumière les crimes coloniaux de la France. La France a colonisé l'Afrique, pillé les ressources, maintenu les populations en esclavage, massacré des communautés entières et participé à des génocides. Et en se lançant des fleurs pour avoir accordé des soi-disant indépendances, elle a bien sûr conservé ses intérêts et sa violence dans les pays exploités. La France s'étant aujourd'hui faite mettre dehors de la région du Sahel, s'est tenue à Nairobi, au Kenya, les 11 et 12 mai. Avec le nouveau nom Africa Forward et derrière les excuses classiques de greenwashing qu'on connaît, le développement, la protection de l'environnement. La France a également signé un accord de coopération militaire avec le Kenya en mars, pareil à l'accord que j'ai mentionné avec les Philippines. Une impunité des crimes commis sur le sol, domination militaire du territoire, autres avantages fiscaux. Et ces crimes, des meurtres, des massacres, des enlèvements, des viols, ils sont déjà commis par les forces militaires britanniques, les Batouks et les forces Yankees qui sont déjà présentes sur le territoire kenyan. Et si je vous parle aujourd'hui spécifiquement du Kenya, c'est pour porter la voix des camarades et de leur lutte, mais aussi pour vous rapporter mon expérience directe de la situation et de la répression fasciste qui sont banalisées là-bas. Un sommet panafricain contre l'impérialiste s'est tenu également en réaction au sommet France-Afrique, les 11 et 12 mai à Nairobi. et l'ILPS France que je représente a participé à l'organisation de ce contre-sommet, mis en place par nos camarades du CPMK, le Parti communiste marxiste du Kenya, aux côtés aussi de l'ILPS Kenya. Ce contre-sommet, il comprenait une journée de conférences, de discussions, et le lendemain, une manifestation. Et lors de cette manifestation, qui était pourtant non violente, le 12 mai, nous avons été visés par des tirs, ainsi que par des grenades lacrymogènes. Nous étions une centaine et le cortège s'est vu disperser. J'ai vu un camarade kényan qui avançait seul, alors je l'ai suivi. Lorsqu'il a été battu et arrêté par 5 militaires, je me suis interposé et j'ai reçu le même traitement. Des coups, balancé dans un fourgon, maintenu immobile par les genoux d'un militaire et amené au commissariat central de Nairobi. Nous étions 19, 14 camarades kényans et 5 personnes qui venaient de l'international. Nos camarades kényans ont pu être relâchés après un peu plus de 24 heures. Nous sommes restés 69 heures en détention. Sans connaître les charges retenues contre nous, sans aucun jugement. Et à ce jour, aucun document officiel n'a été fourni par les autorités kényanes, ni concernant notre détention, ni concernant notre libération. Mes droits y ont bien sûr été bafoués, et les soins médicaux nécessaires à ma santé, ainsi qu'à celle du camarade grec emprisonné avec moi, nous ont été refusés, malgré une visite médicale qui certifiait qu'on avait besoin de soins urgents. Pour ma part, je suis immunodéprimé. Je souffre de plusieurs handicaps qui fragilisent ma santé, dont des douleurs chroniques. J'ai passé 3 nuits dans des cellules collectives, à dormir 1 heure ou 2, pas plus, dans la pisse et dans la merde. Sur le béton du sol, en voyant à peine la lumière du jour, sans qu'aucune eau ne soit fournie, avec très peu de nourriture, pour laquelle, bien sûr, les détenus n'ont pas de couvert. Et bien sûr, je vous laisse imaginer qu'il n'y a du savon nulle part. Nous mangeons donc avec nos mains pleines de pisse et de merde. Mes mots sont durs, mais elles sont la réalité. Les gardes y réveillent les détenus constamment pour les torturer psychologiquement. Chaque nuit, ils battent les prisonniers, particulièrement des prisonnières. La dernière nuit que j'y ai passée, ça a duré des heures. Mais ce que je veux exprimer aujourd'hui, d'abord, c'est ma reconnaissance face à l'aide que j'ai reçue des camarades sur place et à l'international. Ici à Paris, la campagne pour ma libération a rassemblé des forces de gauche qui savent pourtant très bien se détester. Mais c'est exactement ça que doit être la solidarité internationale. Elle doit être détachée de tous nos différents intérêts organisationnels. Mais surtout, surtout, moi je veux utiliser cette opportunité pour faire passer un message qui est très clair. Ce n'est pas à propos de moi. Si mon arrestation, si mon passage à tabac a permis d'obtenir une visibilité médiatique et des opportunités de prendre la parole comme c'est le cas aujourd'hui, il est impensable que ce ne soit pas utilisé pour parler du véritable problème, qui est le fascisme du gouvernement de Ruto au Kenya. La corruption, la répression, les meurtres. J'ai vu dans ces cellules des violences qui sont inouïes pour toute personne qui n'en a jamais fait l'expérience. J'ai vu des enfants enfermés, j'ai vu des femmes enceintes, des personnes malades en situation critique, et tout ça dans une indifférence totale. C'est tellement commun, c'est tellement habituel et tellement passé sous silence. Les gardes prennent un plaisir vraiment pervers à terroriser et à frapper, à entasser les gens dans des cellules, à les priver de sommeil, de nourriture, et ils rient en frappant les femmes. Ils cassent leur matraque à force de donner des coups. Et peu de médias parlent des Kenya, du Kenya à l'international. Encore moins pour prendre le point de vue des masses opprimées. Et combien, par contre, d'articles avons-nous vu sur la visite de Macron à Nairobi ? Beaucoup trop. Et je pense fermement, vraiment fermement, qu'il est honteux qu'il faille qu'un blanc se fasse tabasser pour mettre enfin en lumière ses crimes. Mais nous savons comment le système néocolonial et fasciste fonctionne. Alors si ça permet d'ouvrir une fenêtre pour en parler, moi je veux l'utiliser pour dire aujourd'hui à toutes les forces progressistes en France et dans les autres pays impérialistes, unissons-nous contre ces crimes. Nous en sommes largement capables. Le peuple kényan meurt étouffé par le fascisme de Ruto et par sa clique, mais aussi par le pillage et la militarisation néocolonialiste, impérialiste. Il est impensable que ma sécurité soit davantage mise en avant que la leur. Moi, je peux vous dire tout ça aujourd'hui parce que je suis rentré, parce que je suis en France, je suis en sécurité. J'ai reçu l'aide de l'ambassade là-bas. Depuis notre libération, les manifestations, il y en a encore, il y en a tous les jours. Contre la montée des prix de l'essence, le 18 mai, il y a au moins 4 personnes qui ont été abattues pendant des manifestations. Les États-Unis construisent en ce moment un complexe médical de quarantaine pour leurs citoyens et leurs militaires atteints d'Ebola, à Nanyuki, dans une de leurs bases militaires. Il y a des mobilisations contre ça, elles sont sauvagement réprimées. Et le camarade avec lequel j'ai été arrêté le 12 mai, Julius Kamau, a encore été arrêté, détenu et torturé pendant 48 heures. Le voilà, le quotidien des militants et des masses au Kenya. Être habitué aux arrestations, être habitué aux violences fascistes, ne pas craindre la mort dans la lutte, Ils ont la tête haute parce qu'aucun choix ne leur est donné, et dès leur plus jeune âge. Nous parlons souvent de fascisme en France. Et ceux qui ne l'ont pas expérimenté, comme nos camarades kényans par exemple, le vivent au quotidien, et comme tant d'autres le vivent dans le monde, ne peuvent pas savoir pleinement ce dont il s'agit. Et les 69 heures que j'ai passées détenues ne me permettent pas non plus de le savoir. Ici, ou au Kenya, les peuples en lutte sont nos frères et nos sœurs, comme tous les peuples opprimés. Le capitalisme, à son stade impérialiste, aujourd'hui, assoiffé de profit et de sang, il nous prive de notre humanité, il nous pousse à l'individualisme. Mais tout ça, ça sert leurs intérêts, ça sert les intérêts des classes dirigeantes. Si on divise le peuple, il lutte moins, et il faut que ça cesse. Donc nous devons dire aujourd'hui aux camarades kényans, aux masses africaines opprimées, à tous les peuples opprimés en fait, nous sommes avec vous. Et plus qu'avec des mots, plus qu'avec les mots que je dis aujourd'hui, on doit agir contre notre propre impérialisme. On doit consolider la solidarité internationale, comme on le dit tout le temps. Est-ce qu'on le fait ? Beaucoup trop difficilement. On se bat pour vous, on se bat avec vous, et on ne sera pas libre tant que vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, je veux conclure en disant à bas l'impérialisme, mort au colonialisme, et vive la solidarité internationale. Je vous remercie de m'avoir écouté, camarades.
On va continuer avec des petites questions pour Mimi. On va parler un peu fémonationalisme et réarmement démographique. Donc bon, qu'est-ce que ça raconte pour toi sur les corps des femmes et du traitement différencié des femmes non blanches, des femmes trans, etc.
Tant que ça rapporte de l'argent, tant que l'industrie de la guerre est très rentable, fatigue ou pas fatigue, on va vous amener quand même à la guerre, on va vous amener quand même dans la chaîne de patrons pour profiter, pour faire augmenter les profits de ces patrons. Du coup, déjà, c'est une hypocrite en soi. Et quand il s'agit aussi, comme ce que tu viens de nous dire, comment les femmes non blanches, les femmes racisées sont touchées ou frappées ou attaquées directement par ces genres de campagnes à la militarisation. Déjà, on voit très bien qu'en fait, ils aimeraient bien renfait-il une certaine population, peut-être la famille nucléaire hétérosexuelle, blanche, etc. Mais quand il s'agit de familles pauvres, des gens qui viennent de Mayotte, qui traversent la mer afin de trouver un avenir meilleur, bah, on va les stériliser de force. Et ce n'est pas la première fois que l'État colonial a produit ce genre de pratiques vis-à-vis de populations féminines racisées qui a été colonisée. Et aujourd'hui, on voit très bien que le processus de la colonisation n'est pas encore fini en soi, et on voit très bien comment les personnes qui viennent de Comores, etc., ont été maltraitées. Et du coup, si on voit les familles, les mères isolées, racisées, qui bossent tellement dur, on n'a rien à foutre de leurs conditions de travail. On ne va pas parler d'augmentation de SMIC, on ne va pas parler d'augmentation de salaire, etc. Et en même temps, conditions de travail, ils s'en foutent. Le travail pour eux, c'est le travail pour répondre aux besoins de grand patronat, c'est-à-dire que le patriarcat travaille côte à côte avec le capitalisme afin de nous exploiter au maximum. C'est ce qu'on va dire tout à l'heure sur la question de la libération de nos corps, en fait. Pourquoi la question de l'autodétermination des personnes trans, non-binaires, c'est aussi central dans cette lutte? Parce que déjà, dans le monde patriarcal qui veut quand même transformer tout le monde en machine à la guerre, le rôle de la femme dans cette société, c'est de faire des enfants. Et le rôle des mecs, bah, on va les transformer en chars à canon. Et du coup, à l'école, on essaie d'interdire toutes les éducations affectives, sexuelles et n'importe quoi, etc. Et en même temps, on essaie d'interdire les traitements de la transition sociale et médicale pour les enfants trans, en disant qu'on va protéger les enfants.
Merci Mimi, je te pose une deuxième question. Donc effectivement, on voit bien comment tout est lié. Et on voit depuis plusieurs années qu'il y a une vraie tentative de normalisation de discours comme ceux du groupuscule fémonationaliste Némésis, qui instrumentalise les droits des femmes au nom d'un agenda sécuritaire et xénophobe. On a pu voir ça aussi très récemment avec les récentes mobilisations sur le drame de Liana, sur le meurtre de Liana, enfin comment tout le discours pédocriminalité, discours sécuritaire qu'on voit fleurir ces derniers jours. Comment combattre ces discours fémonationalistes et cette récupération ou tentative de récupération?
face à cette montée de discours fémonationaliste, à la montée de la transphobie et du racisme, de l'islamophobie. Bah, déjà, en tant que collectif trans ou association trans avec qui je travaille, je vois très bien qu'en fait, on essaie de nous diviser, surtout l'État, notamment l'État aujourd'hui, la France, et comme ailleurs, essaie de nous diviser entre guillemets pour dire qu'en fait, la lutte LGBT ne doit pas associer à la lutte décoloniale, antimilitariste et antifasciste. Et du coup, avec le chantage qu'on va te couper la subvention, ou par exemple la marche de fierté, par exemple l'année dernière, on a vu très bien qu'il y a une affiche qui voilà, qu'on a vu quelqu'un qui a traîné les fachos par terre, par cravate, ou même un petit truc palestinien en bâche, etc. Et ils sont pris très cher. La DUCRA, le gouvernement, ils ont coupé la subvention à l'LGBT. C'est-à-dire que la marche de fierté cette année, c'est pour vous dire que c'est devenu nul. Face à ces chantages institutionnels, il faut qu'on garde une autonomie politique, communautaire et antifasciste. C'est-à-dire qu'on va y aller peu importe ce qu'ils nous disent de ne pas le faire. On va le faire. Et même si c'est la marche de fierté institutionnelle de Paris, on va y aller quand même avec les drapeaux palestiniens pour montrer qu'en fait, ils ne peuvent pas nous arrêter et les trans pédéquines sont avec la libération de tout le peuple palestinien parce que je viens de vous dire que la libération de corps, déjà les femmes trans, on ne veut pas se transformer en soldats militarisants, masculinisants pour aller mourir pour le profit. Non, on veut sucer la queue, on veut lécher la chatte, on ne veut pas mourir et crever comme des grenouilles tuées, assassinées comme ça au fond de la guerre. Non, on n'en veut pas ça. Et c'est pour ça que les transpédéquines de tout le monde entier, on doit questionner que si vous ne vous occupez pas de cette question de antimilitarisme, par exemple, ils vont venir vous chercher, ils vont vous criminaliser à nouveau. On va commencer par interdire l'accès aux hormones et après l'éducation sexuelle affective, oublie, on va mettre la croix, travail, patrie, famille. Et après, voilà, vous êtes presque proche au front de la guerre. C'est pour ça que je pense que toutes les collectifs, pas que trans pédicules, mais les féministes aussi, doivent montrer que, en fait, la question trans, le soutien et la solidarité au combat des femmes trans, c'est important parce que les masculinistes, ils sont là pour s'en prendre à nous. Et même pour nous aussi, les femmes trans, les personnes trans, on doit être très solidaires, être au même front de lutte antiraciste, notamment surtout aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire avec les femmes musulmanes, l'islamophobie d'État qui est de plus en plus sévère. Et si on ne reste pas ensemble, c'est sûr qu'ils vont venir nous chercher tous et tous, soit ils vont nous envoyer à la camp, ils vont nous stériliser, ils vont nous envoyer au front, parce qu'aujourd'hui, là, ils cherchent à maximaliser le profit et on ne va pas laisser faire. On va rester transpédéquines, queer, fiers et révolutionnaires.
Merci Mimi.
Et voilà, on est à Saint-Denis aujourd'hui, ce samedi 13 juin 2026. C'est le week-end de mobilisation contre Eurosatory, le supermarché de la guerre et du contrôle. Et là, on va parler de l'enfantisme. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de questions qui se passent autour après, notamment la mort de Liana. Mais c'est pas nouveau, hein. Les questions d'atteinte aux enfants sont de plus en plus importantes. Alors, on entend beaucoup de choses dans le milieu institutionnel, de mobilisation. Elles sont là, elles doivent être, mais il y a peut-être une autre réflexion à amener sur ces questions-là. Et avec notre interlocutrice, on va en parler, mais je vais essayer le soin de se présenter.
Bonjour, donc moi je m'appelle Juliette. À la base, je suis créatrice de contenu militant sous le nom de Macho Boulot Dodo, sur Insta notamment. Et je fais aussi partie du collectif Boussole Féministe, qui est un collectif féministe et enfantiste qu'on a créé à la base pour la Palestine pendant plein génocide parce qu'on constatait le silence de nos communautés féministes et enfantistes sur le sort des Palestiniens, des Palestiniennes, des enfants à Gaza. Et on trouvait ça insupportable et donc on avait monté ce collectif avec des collègues. Donc depuis qu'on a monté ce collectif, notre objectif c'est que le milieu féministe et le milieu enfantiste prennent à bras le corps la question antiraciste, la question décoloniale, mais aussi la question antimilitariste et soient vraiment des mouvements d'intersection et de convergence des luttes. Donc ça c'est pour la présentation. Nous, ça fait des années qu'on prévient que la question des droits de l'enfant, la question de l'enfantisme, qui est un mot qui n'est pas encore assez utilisé, qui est vraiment la lutte pour les droits des enfants, que ça inclut la lutte contre la pédocriminalité, contre les violences sexuelles, mais pas que, contre tous les types de violences, et pour les droits et l'affirmation de l'enfant en tant qu'individu. Il va falloir se saisir du sujet enfantiste au sein de la gauche, au sein des mouvements progressistes, parce que ça va être clé et parce que sinon on va en être dépossédé. Et là, c'est ce qu'on voit se confirmer, mais c'est pas nouveau, mais ça s'est accéléré avec l'affaire Liana, où on a vu que, avec cet émoi populaire, cette indignation populaire qui a résulté, avec cette volonté des gens d'aller dans la rue, ça a créé des grands rassemblements qui se voulaient apolitiques. Déjà, il n'y a rien d'apolitique en ce bas monde. C'est qu'en fait, justement, là où c'est très compliqué, c'est comment mobiliser les gens sans dépolitiser quelque chose qui est fondamentalement politique. Donc, le but du mouvement enfantiste vraiment tel quel, c'est que la société prenne conscience que les enfants sont les personnes les plus vulnérables et les plus opprimées au final de la société, en particulier les enfants racisés, pauvres, etc., ceux qui cumulent plusieurs discriminations, à quel point toute la société est faite pour les écraser, pour les écrabouiller, depuis l'inceste, un mot qui n'est pas aussi beaucoup apparu dans le débat public, alors qu'il est aussi au cœur de l'affaire Liana, comme on a pu le voir avec la famille du criminel. Donc en fait, il y a des mots qu'on personne ne veut utiliser, et qu'il va falloir qu'on affronte le problème systémique de l'inceste, le problème systémique des violences pédocriminelles, au sein même de la famille, au sein même des institutions scolaires, et non pas que avec un inconnu dans la rue. En fait, c'est comme la question du féminisme. Pendant longtemps, dans le féminisme, on a voulu coltiner les violences sexuelles à un inconnu dans une ruelle sombre, avant de comprendre que c'était un problème systémique qui concernait vraiment toute la population et qui venait des conjoints et des ex-conjoints le plus peur du temps. Donc, là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des rassemblements multitudinaires, très bien, c'est normal d'être indigné, c'est bien d'être dans la rue, de protester, tout ça, c'est bien. Mais attention, parce qu'on a soit des gens qui essayent de dépolitiser l'événement, soit on a des gens qui essaient de récupérer l'événement.
Et
on a
eu la présence... Notamment Retailleau qui demande la castration chimique, notamment.
En ce moment, on a un festival. C'est-à-dire que ça va devenir cette question-là des droits des enfants et de la pédocriminalité, ça va devenir un enjeu majeur des prochaines élections. Tout le monde va vouloir s'en emparer pour gratter du buzz, parce que c'est sensationnaliste aussi, et à faire des grandes propositions comme ça, de style castration chimique pour tous les pédos, on entend mort aux pédos, on remet la peine de mort carrément, hein, enfin on en est là. Donc en fait, ça, c'est des mesures qui sont fascisantes. Déjà. Et ils vont surfer sur la mort d'une enfant et les violences que subissent les enfants pour faire passer un agenda qui est fascisant, qui est répressif, qui est autoritariste. Donc ils l'ont très bien compris, ils le font déjà. On a aussi des collectifs comme Némésis qui se sont incrustés aux manifs. Donc Némésis qui est un collectif identitaire qui se fait passer pour féministe pour faire passer un agenda raciste et xénophobe, et d'ailleurs que Retailleau aime beaucoup. Il s'entend très bien avec elle. Et donc, on le voit en temps réel, hein, l'attentif de récupération. Et donc là, il va falloir être très solide sur nos appuis. Donc pour ça, que toutes les personnes qui soient sensibles à cette cause, et c'est la majorité des gens, les gens sont indignés, sont émus, on est des parents, on sait pas quoi faire, etc. Il faut s'éduquer sur la question. Donc, première chose que je vous demande de faire, si vous écoutez ce message, on est un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de mouvements et d'orgas pro-enfants. Et en fait, en creusant un peu, on peut voir que certaines orgas collaborent avec le macronisme, collaborent avec le sionisme. Il y a plein de choses qui ne sont pas claires du tout, pas nettes du tout. Parce que cette cause, elle se prétend apolitique, mais en fait, elle ne l'est pas. Donc moi, vraiment, ce que je vous conseille, les yeux fermés, c'est de suivre le travail du collectif enfantiste. Ça s'appelle comme ça sur Insta, collectif enfantiste, et sur Internet ou quoi. C'est un collectif qui se retrouve aujourd'hui très isolé, justement, parce qu'il porte une vision politique de l'enfantisme, également antiraciste et centré vraiment sur l'enfant et non pas sur la répression des pédos, aussi parce que les gens qui s'y connaissent vraiment savent que c'est pas la répression qui va pouvoir sauver les enfants, qui va dissuader qui que ce soit, c'est en s'attaquant vraiment aux problèmes systémiques. Et pour pouvoir faire ça, il faut d'abord prendre conscience de l'ampleur du problème. Par exemple, tous ceux qui crient mort aux pédos, vu les chiffres qu'on a, les pédos en question, ils sont dans ta famille, hein. C'est ton oncle, ton grand-père, ton père, ton frère. Imaginons une société où on rétablit la peine de mort. Les enfants déjà ont du mal à parler contre les gens de leur famille. Vous pensez qu'ils vont parler pour risquer de tuer leur propre père, enfin voilà. En fait, c'est que des paroles absurdes de gens qui ne connaissent pas le sujet, qui n'ont pas les chiffres, qui n'ont pas les études. Donc vraiment, soyons très vigilants sur qui organise les rassemblements, qui sont présents. Ne nous laissons pas vraiment récupérer cette lutte qui est primordiale. Et autre chose, au sein même de la lutte pour le droit de l'enfant, il ne faut jamais oublier la dimension antiraciste. Parce qu'il y a enfants et enfants, comme on a pu le voir, même dans les réactions. Est-ce que l'émoi serait le même face à ce qui est arrivé à Liana? Est-ce qu'on a eu le même émoi général face à ce qui est arrivé à Naël? Est-ce que l'enfant est borgné pendant les festivités du match PSG, qui a perdu son œil parce qu'il a fait la fête et qui a 13 ans, est-ce qu'on voit la même, voyez, la même indignation populaire? Donc il y a vraiment des deux poids deux mesures partout, il y a vraiment une question antiraciste dans la question enfantiste. C'est pour ça que toutes les luttes doivent être toujours entremêlées, parce qu'elles ne vont pas les unes sans les autres.
Il semblerait aussi que dans cette affaire, dans la mort de Liana, il y a eu un aveuglement de l'État qui avait, nous dit-on, quelques chiffres et quelques remontées d'informations. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça?
L'État, de toute façon, n'est pas avec nous. L'État n'est pas dans la lutte enfantiste, ni dans la lutte féministe. Les fois où l'État prend la parole, le gouvernement ou ses membres vont prendre la parole pour, soi-disant, défendre une cause féministe ou enfantiste, c'est toujours pour faire passer un agenda derrière. Et dans les faits, les associations de terrain savent très bien que l'État n'est pas avec nous et que donc, bien sûr, que l'État protège les agresseurs. Il y a des agresseurs dans les gouvernements et tout. Donc, je veux dire, on va pas se mentir, il faut voir les choses en face. C'est pas eux qui vont nous sauver, pas dans l'état des choses actuelles. Donc, oui, bien sûr qu'il y a eu des manquements, que Darmanin doit démissionner, mais depuis longtemps, pour d'autres raisons aussi. Bien sûr que la justice a d'énormes manquements aussi. Enfin, ça se fait à tous les niveaux, au niveau scolaire, quand les enfants parlent. En fait, il y a aussi tout un truc de... On encourage les enfants à parler, mais on les écoute pas du tout. Quand ils parlent, ça, c'est vraiment... c'est étudié en termes de chiffres. Quand un enfant ose parler contre un adulte, ce qui est extrêmement difficile, que ce soit un adulte en qui il a confiance, de sa famille, de son école, etc., il ne sera pas cru, ce sera étouffé, ce sera, voilà, il y a tout un mythe de l'enfant menteur, de l'enfant séducteur, on entend des choses terribles,
affabulateur,
et voilà, donc c'est, en fait, il y a tout à remettre en question à tous les niveaux, du niveau de la cellule familiale, parce que les premiers agresseurs des enfants sont dans leur famille, et ça, c'est ce qu'on n'entend pas du tout dans les discours actuels. Comment dire ? C'est très bien que ce sujet arrive au centre de l'actualité et qu'on lui accorde du temps enfin, mais malheureusement, c'est n'importe comment.
De manière un peu dramatique.
De toute façon, on a un État qui casse l'éducation, qui met son budget dans la guerre. C'est pour ça qu'on est ici dans cette mobilisation contre Rossatori, qui veut qu'on se fabrique de la chair à canon. Macron, il parle de natalité, il parle de réarmement démographique. C'est pour envoyer les jeunes au front. Il n'en a rien à faire si ces jeunes sont éduqués, si ces jeunes sont violentés ou pas. Enfin, c'est vraiment, on est dans une logique effectivement capitaliste et impérialiste de toute façon. Donc, c'est pas étonnant que la question des violences contre les enfants n'ait jamais été un problème central. Et elle ne le sera pas tant qu'on forcera pas les choses. Voilà, en se mobilisant et voilà.
Ben, je te remercie. Et puis ben, voilà, on va continuer à suivre cette journée. Ben, merci à toi.
Merci à toi, avec plaisir. La lutte continue.
Et vous êtes de retour dans l'actualité des luttes. Et ce, jusqu'à 14h. Et on continue de vous diffuser les enregistrements réalisés lors de la mobilisation du 12 au 15 juin dernier contre Rossatori.
On va maintenant écouter Irène du Point Levé. On va parler lutte anti-impérialiste et répression dans les facs. J'ai une première question pour toi. En France, comme aux États-Unis, on a pu observer une énorme répression des mobilisations étudiantes contre la guerre et contre l'impérialisme. Comment est-ce que, avec le Point Levé, vous analysez cette répression et dans quelle mesure on peut la considérer comme une tentative de neutraliser une avant-garde politique dans la lutte contre l'État impérial ?
Merci. Bah, bonjour à toutes et tous. Nous, écoutez, avec le Point Levé, vous devez le savoir. Nous, on a fait partie de toutes les mobilisations pour la Palestine, évidemment, depuis le début du génocide. Et même avant, on a toujours été pour l'autodétermination du peuple palestinien et la fin de la colonisation. Depuis le début du génocide, avec les grosses mobilisations qu'il y a eu, nous, on a eu beaucoup de militants qui sont allés en garde à vue et qui ont été réprimés, que ce soit pour avoir organisé des actions à la Sorbonne contre le génocide, simplement pour des assemblées générales dans des amphithéâtre. On a été empêchés de tenir des stands, des tables avec le drapeau palestinien sous prétexte que c'était un symbole de haine et que ça pouvait être perçu comme une provocation. Et globalement, on a cherché à nous silencier, on a cherché à empêcher nos réunions, à empêcher nos stands, à criminaliser toute forme de mobilisation. Et ça, on voit qu'en réalité, ça touche l'ensemble du mouvement étudiant et de la jeunesse et que l'objectif du gouvernement, c'est réellement de silencier toute une génération qui est en train de se politiser autour du génocide. Et on l'a vu plus récemment avec la loi, par exemple la loi Yadan, qui cherche à assimiler la haine d'Israël à la haine des Juifs, et plus récemment les attaques contre le droit d'organiser des meetings politiques dans les facs après la mort de Quentin Derenck. Et ça, on voit que ces attaques de la part du gouvernement, en général, elles se font aussi avec la complicité des présidences d'université et d'une partie de la communauté universitaire. Récemment, on a un camarade au Beaux-Arts qui a été convoqué en conseil de discipline avec une de ses camarades parce qu'ils sont suspectés d'avoir repeint les marches des Beaux-Arts aux couleurs de la Palestine. Nous, plus récemment, moi je suis étudiante à Paris 8, on a organisé des grosses rencontres anti-impérialistes avec le Point Levé à Paris 8 qui ont réuni 800 personnes. Et en fait, la présidence de l'université a interdit la venue d'Anas Kazib, qui est le porte-parole de Révolution Permanente, parce qu'il est attaqué pour apologie du terrorisme et parce qu'il passe en procès le 25 juin prochain. Donc la présomption d'innocence, on peut se la mettre où vous pensez. Mais pour en revenir à la question des universités, ce qu'on voit, c'est que ça s'accompagne aussi de très fortes mesures austéritaires qui sont en réalité le corollaire du militarisme et de l'augmentation des budgets militaires. Ces coupes, elles vont aussi dans le sens de faire de l'université un espace de plus en plus adapté aux besoins du patronat, d'empêcher l'organisation militante et la réflexion politique. Ça passe aussi par l'augmentation des frais d'inscription, la sélection, la baisse de place dans des filières qui sont considérées comme inutiles, comme les filières de sciences humaines, par exemple. Ça passe par le renforcement des partenariats avec des écoles privées ou avec des entreprises. Et tout ça, c'est aussi pour former des étudiants dociles qui vont être sous la pression scolaire et qui ne vont pas pouvoir s'organiser politiquement. La réalité, c'est qu'on voit qu'ils veulent faire des universités des avant-postes de la militarisation en multipliant les partenariats entre les entreprises d'armement et les universités, en adaptant les filières universitaires aux besoins de l'impérialisme français. Par exemple, il y avait des commissions parlementaires avec des députés de droite qui discutaient de comment faire aux étudiants de cinéma des œuvres de propagande pour l'armée française. Ça, on voit aussi que ça passe par une propagande raciste et nationaliste, contre l'ennemi intérieur musulman, bien sûr, contre les étudiants étrangers plus en général, puisque je pense que vous avez dû suivre l'attaque récente du gouvernement avec Bienvenue en France, qui est une loi ultra-raciste qu'il avait essayé de faire passer en 2018, et il avait dû reculer sous la mobilisation, et aujourd'hui ils sont en train d'essayer de le faire passer de manière ultra-autoritaire par décret, en plus au moment des vacances scolaires, etc., et qui a pour objectif d'augmenter de manière faramineuse les frais d'inscription pour les étudiants étrangers extra-communautaires, donc c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de l'Union européenne, donc on sait quels étudiants sont visés en réalité, et on voit que c'est une attaque profondément raciste qui est en réalité un outil pour souder la population autour du drapeau français, et que Bienvenue en France, c'est une attaque historique qui est non seulement un moyen immédiat de refermer les portes de l'université, de faire des économies, mais c'est aussi un moyen de préparer les attaques contre l'ensemble du mouvement étudiant en s'attaquant d'abord à nos camarades étrangers, mais c'est aussi un moyen de diviser la jeunesse entre les étudiants dits nationaux et les étudiants étrangers. Donc en réalité, c'est aussi un moyen de préparer la jeunesse à la propagande nationaliste, à nous faire croire que le problème, ce serait notre voisin sénégalais ou malien, et pas du tout le patronat qui nous exploite dans des jobs payés au SMIC et le gouvernement qui coupe l'argent pour les universités. Donc pour finir, ce qu'on voit, c'est que c'est des attaques qui se font de la part du gouvernement et du patronat, mais qui se font aussi main dans la main avec les organisations d'extrême droite, qui, elles aussi, défendent un projet d'université qui soit fermé aux classes populaires et aux étudiants étrangers. Et c'est aussi eux qui servent à discipliner la jeunesse en vue de la militarisation. Par exemple, c'est eux qui vont organiser des actions contre les blocus, qui vont s'attaquer aux actions physiquement. À Rennes, nous, récemment, on a des camarades qui ont dénoncé la présence de l'armée à la fac, et la droite et l'extrême droite ont cherché immédiatement à polémiquer et à intimider nos militants. Donc l'objectif derrière, il est clair, c'est de chercher à nous empêcher de contester les politiques réactionnaires. Et pour ça, des organisations d'extrême droite comme l'UNI ou la Cocarde, elles sont des alliés hors pair des gouvernements. D'où l'importance aussi de s'organiser contre eux, comme on le fait dans les comités d'action contre l'extrême droite, comme à Bordeaux, Paris 1, etc. Donc en définitive, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement et l'extrême droite, ils sont très conscients que dans la jeunesse, il y a toute une génération qui s'est politisée autour du génocide à Gaza, des violences policières et autour aussi du risque de l'extrême droite, et qu'ils sont très conscients qu'il va falloir réprimer cette génération avant qu'elle passe à l'action.
Merci. Merci Irène. J'ai une deuxième question pour toi. Est-ce que tu peux nous parler des apprentissages que vous avez tirés sur la construction d'alliances entre étudiantes, travailleurs, travailleuses précaires, personnel technique et syndicats pour faire de l'université un lieu de contre-pouvoir plutôt qu'un espace de reproduction de l'idéologie impériale ?
pour faire accepter la course à la guerre, on sait très bien qu'il faut d'abord embrigader les corps et les esprits. Et par exemple, récemment, il y avait deux militaires américains, enfin deux responsables de hauts dignitaires américains qui expliquaient que, je cite, « les jeunes soldats et les recrues potentielles ne savent pas ce qu'est la compétition entre grandes puissances. La génération Z peut se battre et le fera, mais elle doit d'abord comprendre pourquoi. » Donc c'est intéressant parce que ça montre que les puissances impérialistes, elles n'ont pas encore gagné ce qu'on appelle la bataille des cœurs des nouvelles générations, et que ça, c'est un enjeu central pour préparer les prochains affrontements. Et que c'est pour ça, typiquement, que ils font... En fait, il y a eu plusieurs étapes. Donc, il y a eu la JDC, la Journée Défense Citoyenneté, il y a eu le SNU, il y a eu un saut important en novembre avec l'annonce du service national militaire. Ça s'accompagne d'une augmentation des budgets militaires avec, par exemple, l'Assemblée nationale qui a approuvé un projet de loi pour actualiser la loi de programmation militaire française qui prévoit 6 milliards d'euros supplémentaires pour l'armée. Ça, on voit que c'est aussi une tendance internationale et qu'en Allemagne, par exemple, le gouvernement veut débloquer un investissement de 900 milliards d'euros pour la défense. Et face à ça, on voit qu'il y a un enjeu donc de reconstruire une tradition anti-impérialiste et anti-militariste dans les universités aux côtés des personnels, des professeurs et de l'ensemble des étudiants. Et que je pense que pour ça, la première chose, c'est déjà de se poser la question de pourquoi en France, il n'y a pas de réaction face aux politiques militaristes du gouvernement. Parce que par exemple, quand on compare avec l'Allemagne, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu des larges mouvements de grève dans la jeunesse, en particulier dans la jeunesse lycéenne, contre le retour du service militaire. Et en France, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de mouvement similaire, alors que Macron, il a lui aussi annoncé la mise en place d'un service militaire volontaire en novembre dernier. Et il y a un historien qui est spécialiste des questions de services militaires, etc., qui expliquait, par exemple, en 2023, face aux faibles réactions qu'il y avait face au SNU, il expliquait qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle déteste de manière très large la police, mais que l'antimilitarisme, par contre, avait complètement disparu. Et en fait, je pense qu'une des raisons, c'est que l'armée, elle est vue assez largement, y compris dans les milieux de gauche, comme une institution neutre et apolitique, que y compris la présence de l'armée, elle a été totalement banalisée ces dernières années avec les différentes opérations antiterroristes, et notamment l'opération Sentinelle en 2015, quant à des patrouilles qui sont déployés dans tout le pays sans que ça génère aucune réaction dans toute la population. Et ça, évidemment, c'est lié à la place de l'impérialisme français dans le monde, qui en réalité doit son rang mondial à l'armée. Tu le disais, la France est le deuxième exportateur d'armes au monde. Elle est présente sur les 5 continents. La France, elle est détentrice de l'arme nucléaire. Il y a une présence militaire coloniale et néocoloniale aux 4 coins du monde qui est totalement normalisée, comme au Sénégal et en Côte d'Ivoire, où il y avait des bases militaires jusqu'en 2025. Il y a une présence militaire française au Gabon, à Djibouti, aux Émirats arabes, même en Roumanie, etc. Et je pense que pour comprendre cette banalisation de l'armée, il faut évidemment remonter loin. Et il faut aussi comprendre que la gauche au pouvoir, notamment dans les années 80 avec Mitterrand, elle a joué un rôle conscient pour réconcilier l'armée et la société. Par exemple, je pense que peu le savent, mais Mitterrand a gracié et fait réintégrer par 49-3 les généraux putschistes d'Alger, de l'OAS, donc de l'extrême droite, pour qu'ils puissent toucher leur retraite militaire. C'est Mitterrand qui a mené des actions clandestines contre les bateaux de Greenpeace, et notamment contre le Rainbow Warrior. C'est l'affaire assez connue que peut-être vous connaissez, qui avait été envoyé en Polynésie française, à Mururoa, pour protester contre les essais nucléaires français. Donc on voit qu'en fait, la gauche au pouvoir, elle a joué un rôle important pour réhabiliter l'armée, et que c'est une logique qui se poursuit aujourd'hui, avec évidemment le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, qui sont des partis totalement en guerre néoconservateurs, mais aussi avec ceux qui font alliance avec eux, notamment le Parti communiste et la France insoumise. Donc je pense qu'une des conditions pour reconstruire une tradition antimilitariste, c'est aussi de porter un programme réellement anti-impérialiste, et notamment contre l'impérialisme français. Et je pense que pour ça, c'est intéressant aussi de se réapproprier l'héritage anti-impérialiste et anti-militariste de la jeunesse des années 60, qui a mené une décennie de lutte contre l'extrême droite, contre les crimes de l'armée coloniale française en Indochine, en Algérie, contre l'autoritarisme de Gaulle et de la 5e République, que pour ça, il faut structurer une mobilisation à l'échelle internationale, construire et prendre part à des initiatives comme la coalition Guerre à la Guerre. Et c'est pour ça que un week-end comme celui qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est important. Pour moi, il faut organiser partout des campagnes, des actions contre le service militaire, contre la présence de l'armée dans les écoles, dans les facs, dans les sociétés, contre les partenariats avec les entreprises d'armement, etc. Et c'est dans ce sens que nous, dès le début du génocide, on a participé à la création des comités Palestine. Je pense que pour ça, un élément important, c'est de voir que la lutte contre le génocide, elle est aussi allée de pair
avec le combat pour l'accueil, l'inscription et la régularisation de tous les réfugiés. Et notamment, moi, dans ma fac à Paris 8, on a réussi à inscrire des étudiants réfugiés libanais et palestiniens. Et en fait, c'est un combat qu'on mène tous les jours aux côtés, notamment du collectif des étudiants étrangers de Paris 8. Parce que nous, on pense qu'être anti-impérialiste, c'est aussi se battre pour de meilleures conditions d'études pour les étudiants algériens, sénégalais, camerounais qui viennent en France parce que l'impérialisme pille les ressources et les richesses dans leur propre pays et leur vole toute perspective d'avenir. Donc pour finir là-dessus, je pense qu'effectivement, c'est important de comprendre aussi qu'en face, eux, ils sont organisés. En réalité, ils ont prévu de nous faire payer les crises et les guerres. Et nous, on doit être conscients que notre principal ennemi, il est dans notre propre pays, que c'est l'impérialisme français. Et que, en fait, ça ne va pas être la même situation quand ils vont nous attaquer encore plus durement si on est totalement passif ou si partout, dans les facs, dans les universités, dans les lycées, sur les lieux de travail, etc., on a des militants qui sont prêts à organiser la contre-offensive, la résistance, etc.
Merci, Irène. On va parler maintenant avec Cassandre du collectif contre la militarisation de la jeunesse. Le service militaire volontaire, l'armée à l'école, les contrôles de police devant les lycées, dans les facs. Comment analyser ces dispositifs comme une tentative de fabriquer une jeunesse docile et loyale à l'État dans ce contexte de crise impérialiste qu'on connaît en ce moment ?
Alors, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par ne pas répondre et faire une digression, juste pour préciser qu'aujourd'hui même, à quelques centaines de mètres d'ici, place Victor Hugo, il se déroule les journées de la jeunesse et territoire au large. Et c'est organisé par la PMM, la préparation militaire marine. Donc il y a un événement militarisant aujourd'hui à Saint-Denis, place Victor Hugo. L'armée, elle est présente sur nos territoires et déjà la première façon d'y résister, c'est d'ouvrir les oreilles et d'être sensible, d'avoir un radar qui permette de voir qu'on est entouré de saloperies et c'est près de chez vous. Le service militaire volontaire donc, qui remplace le SNU, dans le collectif, on ne s'est pas tellement focalisé dessus. Donc je vous rappelle, le collectif, il est contre la militarisation de la jeunesse et de l'école. Il y a pas mal d'enseignants dedans, mais pas que. Ce collectif. Et pour nous, le SMV, le Service National Volontaire, c'est peut-être un énième étendard médiatique qui sera peut-être éphémère, qui sera peut-être remplacé par autre chose. Nous, ce qu'on a travaillé, c'est une cartographie de la militarisation de l'école et de la jeunesse. Et on a vu qu'au-delà du SNU, donc qui est feu le SNU, encore heureux, mais au-delà de ce dispositif-là, en fait, l'armée a infiltré l'école depuis des décennies, notamment par des dispositifs très installés comme le trinôme académique qui associe le recteur ou la rectrice avec un général local, enfin un représentant local de l'armée haut gradé. Et il y a des budgets pour ça, pour faire des tas de projets et pour faire des journées citoyennes très sympas comme Vie ma vie de détenu à Fontenay-sous-Bois en novembre dernier. Nous, on voit deux axes forts dans l'entrisme de l'armée au sein de l'éducation ou de la jeunesse. D'abord, il y a la question du recrutement. Il faut trouver de la main-d'œuvre directe, c'est-à-dire des soldats, mais il faut trouver aussi une main-d'œuvre au sens très large. Il y a besoin de tous les métiers, de tous les corps de métiers, avec une logique de classe. Les plus diplômés vont faire les ingénieurs, l'aéronautique, les drones, et les moins diplômés vont servir de techniciens, de petites mains, mais faut vraiment recruter très largement. Donc, il faut avoir un discours qui permette de dire « vous allez tous trouver votre place ». Au sein de l'armée. Et au-delà du recrutement strict, il y a une question vraiment de séduction et de familiarisation. Parce que tous les jeunes ne vont pas travailler pour l'armée. Par contre, il faut que la population dans son ensemble, et que ça commence très tôt, il faut que toute une génération se dise que la guerre, on n'a pas le choix, il faut bien se défendre. Alors contre qui, on ne sait jamais. Hein, on a parlé de l'ennemi intérieur, la Russie, les méchants qui sont à l'extérieur. Et pour développer ce genre de choses, il y a des outils très clairs. Par exemple, en novembre 2025, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle Édouard Geffray, ce ministre a fait publier, à destination des enseignantes et des enseignants, un guide qui s'intitule « Acculturer à la défense ». Acculturer, c'est familiariser, faire que ça rentre dans la culture commune que la défense, c'est normal, c'est nécessaire et c'est bien. Le guide se trouve sur Internet. Hein, vous tapez « guide acculturel à la défense », c'est pas très très long. Je ciblerai le fait qu'il y a tout un pan particulier sur le lycée professionnel, notamment avec les stages. L'armée ou les corps en uniforme peuvent fournir des occasions de faire des stages. Et c'est bien ça pour des élèves qui sont voués au chômage ou à des emplois précaires. Ben, l'armée est un débouché fort. J'ai parlé de logique de classe tout à l'heure. Voilà, c'est le genre de choses qui confirme. A été évoqué très rapidement à un moment aussi la loi Blanchet qui est en train d'être votée en fait, qui est en train de passer et qui a un large soutien dans l'Assemblée nationale. La classe politique dans son ensemble est largement militariste. Et donc la loi Blanchet, du nom du député, vise à faire en sorte que l'éducation à la défense soit une obligation dans tous les enseignements. C'est pas réservé, ce serait plus réservé, notamment aux enseignantes d'histoire-géographie qui font qui ont leur petit chapitre dans l'EMC. Non, c'est faut que chaque enseignant soit conscient qu'elle a une mission d'enseigner la défense à tous les élèves. Dans cette volonté d'acculturer, que ce soit un thème qui transversal, quoi. C'est pas un chapitre parmi d'autres, c'est une vision de la vie. Et ça aussi, c'est pour faire accepter ce qui a été dit, hein. On n'a pas de politique sociale décente s'il faut se consacrer à la défense, à la militarisation. Et donc, cette loi Blanchet viserait à ce que ce soit obligatoire. Donc, est-ce que ce sera la rentrée prochaine ou la rentrée qui vient ou celle d'après ? Puis bon, 2027 va rebattre certaines cartes, mais en tout cas, il va falloir se préparer à dire non. Et ça, dans mes collègues, je vois bien qu'il y a beaucoup de désinformation, des gens qui ne se rendent pas compte. Et puis, il y a une adhésion aussi d'une petite minorité, mais qui peut être très agissante, une adhésion au militarisme, parce qu'il faut bien, parce qu'il faut se défendre, enfin, tout ce qu'on a dit précédemment. A été évoqué dans la question aussi une crise impérialiste. Ce qu'on a vu dans le collectif, à travers tous les dispositifs militarisants, c'est qu'en plus de la logique de classe, les peu diplômés vont faire les petites mains et les meilleurs diplômés vont faire les grandes écoles, etc. Il y a une logique post-coloniale, néocoloniale, si vous voulez. J'ai apporté ici des exemplaires de notre 4 pages qui ciblent des dispositifs si vous voulez en savoir plus. Mais pour le dire rapidement, sur cette logique coloniale, on avait visé deux dispositifs. On parle du SMV, donc le service militaire volontaire. Ça, c'est un service qui est réservé aux résidents de l'Hexagone. Mais il a son pendant qui s'appelle le régiment du service militaire adapté, qui est adapté aux Outre-mer. Donc pour les Outre-mer, on fait un dispositif spécial parce qu'il faut les prendre en charge de façon spéciale. Et c'est entre la disciplinarisation et la formation militaire. Il faut favoriser l'insertion professionnelle des jeunes qui sinon vont faire de la délinquance et vont errer dans leurs petites îles perdues. Et voilà, il faut les prendre en charge. Un autre dispositif qui existe depuis longtemps aussi, c'est les EPID, les établissements pour l'insertion dans l'emploi. Voilà, avec toujours l'idée que les jeunes, souvent ultramarins, vous m'excuserez le terme, les jeunes de l'Empire sont désœuvrés, ils n'ont pas de diplôme et dans leur petite colonie là-bas, il n'y a rien à faire. Donc on les fait venir en Hexagone, on les coupe de leur réseau familial, on leur crée une nouvelle famille. C'est ce qu'on a vu à Marseille, il y a quelqu'un qui connaissait un EPID qui nous expliquait comment ils venaient du monde entier, les jeunes, ils étaient coupés d'une réalité sociale, mais ils retrouvaient une famille au sein de cet établissement, ils retrouvent des camarades et ils ont une perspective professionnelle qu'ils n'auraient pas eue s'ils étaient restés dans leur petit coin éloigné sans civilisation.
Pour la deuxième question... J'allais en partie te demander pas de la cartographie dont tu as déjà parlé, mais simplement, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur un peu des quelles actions on peut imaginer, quelles actions d'insubordination, à quoi est-ce qu'on peut s'opposer ou non ? Enfin voilà, si tu as un peu des pistes de réflexion là-dessus.
Je voudrais revenir quand même sur la cartographie que j'ai pas tant évoquée que ça. Oui, on a ciblé environ 150 dispositifs. Qui étaient soit infiltrés, détournés par l'armée ou la police, hein, mais c'est beaucoup l'armée dans ce qu'on a trouvé, soit conçus par l'armée. Et dans cette cartographie, il y a toute une chronologie. Déjà en 1955, il y a la CAGE, la Commission Armée Jeunesse, qui est très active encore aujourd'hui, qui a des filiales régionales. et qui sollicite des organisations de jeunesse, des syndicats. Alors Solidaire n'y est pas, moi je suis membre de Solidaire, mais il y a la CGT, FO, la FSU très active dans la CAJ. La commission armée et jeunesse vise depuis 1955 à mettre en relation les organisations de jeunesse et l'armée pour bien les comprendre, les jeunes, et bien leur parler. J'ai évoqué le trinôme académique qui est de 83, donc qui met en lien le recteur, la rectrice et un représentant local haut gradé de l'armée. Ma camarade précédente a beaucoup évoqué Mitterrand, et c'est sous son pouvoir qu'a été créé le protocole Hernus-Avary. Donc Hernus était le ministre, je crois à l'époque on disait des armées, et Savary c'était le ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est pour dire que ça fait plus de 40 ans qu'en fait, et c'est par des membres du PS qu'a été tissé officiellement, qu'ont été tissés ces liens. Au-delà du... Parce qu'on est parti du SNU au début, c'est de notre collectif, c'était contre le SNU, donc c'était l'urgence du moment, mais en fait en creusant, on voit que le SNU c'est une marotte médiatique, bon bah qui a eu sa fin et on en est content, mais derrière il y a toute une structure assez perverse, parce qu'on la voit pas toujours, qui sollicite la jeunesse. Alors en effet, ces derniers temps, il y a eu pas mal de mobilisations, il y en a eu quelques-unes, des mobilisations lycéennes à connotation antimilitariste. Je trouve qu'ils sont plus responsables que beaucoup de leurs profs. Et donc, les repérer, les soutenir, les informer aussi, les aider à s'organiser, bon, c'est le minimum, mais les liens sont encore très ténus. On me demandait aussi dans les questions s'il était difficile de s'opposer à la journée défense et citoyenneté. Je pense qu'en tout cas individuellement, c'est très difficile de s'y opposer parce que c'est le sésame incontournable pour certaines études, pour le permis, pour des formations. Le jeune qui a fait sa journée défense et citoyenneté va présenter en permanence dans le début de ses études le sésame, quoi. Donc s'opposer individuellement à ça, on n'y est pas encore. Cette journée touche 800 000 jeunes par an et l'armée, il y a peut développer un discours dont elle est entièrement libre. Donc c'est une journée très précieuse pour elle. Je déplacerai le combat sur autre chose. C'est un dispositif qui date de 2005, mais qui est sorti médiatiquement pas mal ces derniers temps et qui, je trouve, suscite quand même une prise de conscience. Ce sont les CDSG, les classes défense et sécurité globale. Donc créées en 2005, elles avaient peu d'impact et depuis quelques années, là, elles ont explosé. Les chiffres sont exponentiels. Et l'armée y a vu un regain d'intérêt depuis quelques années. L'armée et les corps en uniforme, sachant que, alors au début, c'était un an, une classe de lycée ou de collège était liée à une unité militaire locale. Si on est proche de la mer, ça peut être une unité maritime, ça peut être la gendarmerie. Il y a une convention qui est signée dans l'établissement, avec des belles photos, les militaires dans l'établissement. Et la classe va faire des cérémonies mémorielles, va visiter des lieux pour comprendre les réalités difficiles du travail des militaires. Et toujours dans une optique de familiarisation, de se rendre compte que c'est difficile et qu'il faut être compatissant vis-à-vis de ces gens qui vont nous défendre. Alors j'ai dit que c'était un an, mais Macron a fait passer à 3 ans. Donc ça veut dire que, par exemple, un élève de 5e qui se retrouve sans l'avoir choisi dans ce dispositif, il a jusqu'à sa 3e la classe défense et sécurité globale, avec un joli nom. Et je disais que c'était collège et lycée. C'était vrai jusqu'à la rentrée dernière. Mais à la rentrée 2025, il y a eu une petite innovation sympa. Il y a une classe défense et sécurité globale en élémentaire à Libourne, dans la Gironde, en Gironde. C'est proche de la mer, donc c'est lié avec une unité maritime. Et un article de Sud-Ouest que vous pouvez trouver sur Internet décrit comment c'est super que les jeunes posent des questions, ils vont pouvoir faire la sortie dans le sous-marin. Voilà, et tout l'argent, moi j'ai lu cet article à un moment où je voyais que tous les financements étaient réduits pour des voyages scolaires, culturels, linguistiques. Mais là, on nous dit, là, il y a de la thune, allez-y, vous faites des super sorties pour visiter le sous-marin. Donc c'est génial. Nous, on a créé le collectif, là, on a créé un formulaire qu'on essaie de faire circuler pour que les gens se signalent quand il y a une CDSG, soit déjà présente dans leur bahut, soit en cours de création. Alors, c'est mieux d'anticiper parce que le chef d'établissement n'a pas obligation de présenter la classe en conseil d'administration. C'est pas soumis à un vote, c'est un projet comme un autre. Il suffit d'un collègue motivé et d'une équipe qui proteste pas, enfin qui dit ok, vas-y, fais ton truc, ou qui, malgré elle, découvre qu'elle se retrouve, un collègue peut découvrir qu'il est dans une classe défense, je parle pour le secondaire, hein. Moi, je suis prof de lettres, on va pas me demander, je pense, mais bref, on peut se découvrir à la rentrée qu'on se retrouve dans la classe défense de l'établissement. Donc, si, enfin, un moyen de lutter, là, c'est, mais il faut créer du collectif entre parents, élèves et professeurs. Les quelques-uns qui sont bien informés et qui n'adhèrent pas au projet, parce qu'il faut les trouver, hein, c'est pas évident, mais il y en a. Et donc, il y a moyen de poser des questions au conseil d'administration, de forcer le chef d'établissement à s'expliquer et à, bon, voilà, essayer de refuser. Et parfois, quand la classe défense est installée depuis un moment, bon, c'est plus difficile. Mais déjà, il faut savoir qu'elle existe. Hein. Parfois, on apprend incidemment que dans son propre établissement, il y en a une qui fonctionne depuis un moment. Hein. Ça peut être très discret. Voilà, et donc le questionnaire qu'on a conçu vise à recenser et à mettre en lien des gens qui voudraient lutter et des gens qui ont déjà une petite lutte pour faire dégager une classe défense et sécurité globale. En fait, il y a nécessité, comme on dit les camarades, nécessité de créer des collectifs, de repérer les gens que ça choque, les gens qui n'adhèrent pas, et informer ceux qui, la grande masse, qui pourraient être choqués, en fait, si elle prenait conscience de toutes les implications de ce genre de dispositifs catastrophiques, quoi. Dans le 93, il y a la présidente de la FCPE qui a fait une prise de parole lors d'un meeting contre la guerre. Cette prise de parole a été transcrite et a été diffusée. Et voilà, elle est très clairement antimilitariste. La FCPE, c'est une des grandes fédérations de parents possibles en France. J'ai vu passer pas mal de communiqués syndicaux aussi, intersyndicaux ou syndicaux, qui étaient souvent locaux. C'est pas encore les fédérations qui proclament l'antimilitarisme, mais il y a quand même un peu de réaction. Et il y a une pétition qui a été lancée par un établissement de 93, Jean L'Olive, qui s'appelle École contre la guerre. C'est un établissement qui se mobilise, mais qui pose des questions plus largement.
Et vous êtes toujours dans l'actualité des luttes et vous êtes avec nous pour écouter les enregistrements réalisés lors de la mobilisation contre Euro Satori du 12 au 15 juin dernier à l'initiative de la coalition Guerre à la guerre.
Et bien voilà, ce lundi 15 juin 2026, on est devant le parc des expositions car aujourd'hui se tient le salon de l'armement et de la mort Euro Satori à Villepinte. Et bien, il y a un rassemblement devant, on est devant le RER pour l'instant, devant le parc des expositions. Et bien, il y a des groupes qui ont réussi à rentrer devant. Devant le salon, devant l'une des portes du salon. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a de plus en plus, chaque année, il y a de plus en plus de services d'ordre et du désordre qui sont là. Hein.
La plupart de la police est encore occupée là-bas avec boycott d'Israël. Et donc, s'il y a des gens, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés pour le faire. Et voilà, je pense que vous êtes un mouvement vers la route pour bloquer les taxis. Ouais, 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 ouais.
Allez, go. Ah donc on va tenter un blocage de la route. On va voir comment ça va se passer.
Viva, viva Palestina!
Viva, viva Palestina!
Viva, viva Palestina!
Il y a un blocage qui est organisé pour essayer un peu de freiner justement l'arrivée de tous ces gens. C'est incroyable le nombre de gens qui arrivent. Hein, ça arrive par wagon, hein, on peut dire comme ça. Et donc, tu distribues des tracts. Je me présente, ils me disent un peu ce qui se passe ici aujourd'hui, quoi, pourquoi on est là.
Alors bon, moi je suis en fait médecin à la retraite, je suis pour la défense, donc l'arrêt disons du massacre à Gaza, et je pense qu'effectivement il y a quand même de la part d'Israël, Israël est en train de se mettre au banc de l'humanité, et l'humanité perd son âme si elle ne réagit pas, c'est-à-dire qu'il y a un massacre qui se fait sous nos yeux. Et Israël, normalement, doit se retirer des territoires occupés. Il y a déjà deux résolutions de l'ONU qui ne sont pas respectées. Il y a des décisions de la Cour internationale de justice qui mettent Israël aussi en état criminel. Donc je pense que là, les gens qui viennent au salon comme ça, en faisant fi de tout ça, mettent leur conscience de côté. Et là, il faut les interpeller. Et je pense qu'en fait, on n'arrivera pas à faire grand-chose vis-à-vis de ces gens-là. Mais ce qui compte, c'est en fait qu'il y ait une répercussion dans la presse et que l'ensemble de la population, qui est généralement pour les Gazaouis, fasse des actions. Alors moi, je suis au sein aussi de BDS. Je pense qu'il est très important d'encourager le boycott, d'encourager le boycott de toutes les entreprises qui soutiennent l'armement, mais aussi celles qui soutiennent Israël, comme Carrefour, comme la BNP et comme l'entreprise pharmaceutique Teva. Il faut boycotter ces gens-là. C'est là que ça va faire un petit peu plier, ça peut faire plier Israël, puisqu'on voit qu'avec on avait réussi avec l'apartheid, avec la campagne Outspan à faire chuter l'apartheid. Donc là, je pense qu'il faut faire la même chose et attaquer là où ça fait mal, où ça peut affaiblir cette puissance qui maintenant n'a plus aucune retenue pour écraser et pour s'étendre. Et elle va s'étendre, je pense. C'est un enjeu pour la planète entière parce qu'elle nous fait courir des risques immenses actuellement. Et là, je crois qu'il faut que les gens prennent conscience que l'enjeu est trop, trop grand pour le laisser faire.
Aujourd'hui, au même moment, il y a le G7 à Évian qui s'ouvre avec un accueil du président américain, vraiment avec faste et démesure, alors qu'il est quand même complice du génocide en Palestine, mais aussi il a quand même fait bombarder une école en Iran au début de la guerre avec l'Iran. Et c'est quand même assez incroyable, est-ce qu'on peut s'en étonner, mais de l'accueillir avec tant de faste en France, quoi.
Alors moi, je crois qu'il y a vraiment un hiatus énorme entre les gens qui nous gouvernent et les populations, que ce soit en France ou ailleurs. La plupart des populations sont contre ces guerres et en fait est contre aussi, je pense, les actions de Trump, même aux États-Unis. Mais on a affaire maintenant à une caste qui malheureusement verrouille tous les pouvoirs, à qui appartient, en fait, qui possède les médias. Et il est très difficile de les ramener dans le rang et de retourner à une démocratie. Je pense que les mois qui vont arriver vont être très difficiles. Et j'espère qu'on arrivera, sans trop de douleur, à virer ces gens de façon à retrouver un fonctionnement démocratique. Il faut s'attendre à des mouvements sociaux importants. Le gouvernement est bien au courant de tout ça, puisqu'il a armé la gendarmerie avec des centaures et autres. Donc ils savent très bien ce qui arrive. Et il y a toute une population, entre guillemets, inutile, comme l'a décrivé Attali, qu'il va falloir effectivement qu'on passe par perte et profit, on désindustrialise, et ces gens-là, on n'en a plus besoin, donc on va les laisser crever. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, je crois qu'il faut réagir très profondément. Et là, on doit tous s'investir et être conscients de toutes les répercussions de notre mode de consommation sur le monde entier, puisqu'en fait, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur vraiment la façon dont on consomme et de qui est à l'autre bout de la chaîne et de qui on privilégie quand on consomme pas cher ou quand on prend des choses qui sont apportées de l'autre bout du monde. Il faut commencer maintenant, je pense, à reconstruire ici sur des circuits courts.
J'ai aussi refusé ce que propose le gouvernement, c'est-à-dire une injection de budget dans l'armement jusqu'en 2030, qui est quand même assez conséquent, quoi. Et c'est au détriment aussi de l'ensemble des services publics.
Le renforcement de l'armement, la fuite en avant vers la guerre et l'armement, en se trouvant en fait un ennemi qui est la Russie pour le moment, mais qui ça va être encore d'autres pays, c'est pour la classe dirigeante une façon de rester au pouvoir. Et ça n'a aucune, je veux dire, réalité dans la pratique. Je veux dire, on est en train de se fusiller, qu'on peut se tirer une balle dans le pied en se coupant donc des ressources énergétiques avec la Russie. On achète maintenant le gaz de schiste américain. Il y a une petite caste au pouvoir qui va à l'encontre totalement des intérêts de la majorité. Et c'est là qu'est le problème, en fait, c'est que ces gens-là, il faut pouvoir les mettre dehors.
Eh bien voilà, c'est ce qu'on va essayer, c'est ce qu'on essaye de faire un peu ici, à notre humble niveau. Voilà, bah écoute, je te remercie.
Il y a eu l'information, qui sont un peu perdus sur ce site, qui est quand même assez compliqué, tout est anonyme, tout se ressemble. Donc ils étaient sur un lieu qui apparemment n'était pas autorisé, ils sont fait tout de suite nasser, et on les a empêchés de venir nous rejoindre. Nous, on essaye de discuter avec les autorités pour un dispersement complet avec nos camarades d'en face. C'est la discussion qu'on a en ce moment. C'est un peu tendu parce qu'il y aurait peut-être la volonté d'en interpeller un certain nombre. Donc on est en train de voir, et peut-être qu'il est en train de me rappeler, le commissaire. Écoutez, je vais vous faire ça en direct.
Oui, allô.
Donc là, l'intermédiaire me dit qu'il va regarder avec les collègues d'à côté pour les dénasser et qu'ils puissent nous rejoindre ici. C'est quelques slogans et l'idée, c'est que pour que personne passe du temps entre quatre murs, qu'on puisse se disperser à un moment donné tous ensemble. Parce que la menace, c'est celle-là, quoi. Hein. Guerre à la guerre, en bas l'impérialisme. Guerre à la guerre, en bas l'impérialisme.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.